Contrairement à la France, où la contestation est parfois perçue comme un élément du patrimoine national, les manifestations en République tchèque sont moins nombreuses ou ont une capacité mobilisatrice plus limitée. Toutefois, depuis 1989 et la révolution du velours, qui a mobilisé le plus grand nombre de manifestants depuis 1968, la société civile tchèque a évolué et les formes de ces manifestations aussi. Nicolas Maslowski, maître de conférence à la faculté des humanités de l'université Charles de Prague, vient de publier un ouvrage sur la contestation en République tchèque depuis 1989. Au micro de Radio Prague, il présente les principaux éléments de son travail et nous montre que l'observation des manifestations de rue est peut-être l'un des moyens privilégiés pour comprendre comment la société tchèque évolue depuis une vingtaine d'années.
Chapitre de l'histoire. Nicolas Maslowski, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions universitaires européennes un ouvrage intitulé « Manifester en République tchèque ». Comment a mûri l'idée de ce livre ?
En fait, ce n'est pas un sujet qui a mûri dans mon esprit longuement, mais que j'ai croisé, que j'ai rencontré un peu par hasard. Je comptais à l'origine travailler plutôt sur les manifestations qui avaient eu lieu sous le communisme, de manière comparative entre la Pologne et la République tchèque. Et pendant plusieurs années, j'ai eu des grands problèmes d'accès aux sources, les archives étant théoriquement ouvertes, mais de fait fermées à des chercheurs comme moi. Quand je suis arrivé en République tchèque, je suis arrivé au moment où commençait à s'organiser les manifestations de « Merci, mais partez »,« Děkujeme, odejdete », qui était un mouvement organisé par les organisateurs de la révolution de velours, par les anciens étudiants.
Donc un mouvement naissant à ce moment-là.
Le mouvement était naissant et a donné lieu à de très grandes manifestations en 1999. Et pour moi, c'était intéressant de voir ressurgir le passé. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à comment la société civile et la protestation ont évolué, quels étaient leurs liens avec le passé et dans quelle mesure elles pouvaient nous aider à comprendre peut-être l'avenir.
Et comment vous avez procédé dans votre enquête, dans votre travail ?
Bon, j'ai croisé plusieurs méthodes et plusieurs sources. Tout d'abord, je suis allé faire du terrain. Je suis allé observer les manifestations, faire ce qu'on appelle de l'observation participante. Quand j'ai réussi, j'ai aussi intégré les groupes des organisateurs avant les manifestations.
C'est-à-dire
que j'ai participé à un certain nombre de réunions et j'ai pu observer les stratégies, les débats, les discussions entre activistes de la société civile qui projetaient de protester pour défendre leur cause.
Et vous avez suivi quel type d'activisme, quel type de groupes sociaux, disons, quelle cause vous a le plus intéressé dans votre travail ?
J'ai suivi les causes qui me passaient devant. C'est-à-dire que j'ai pas fait un choix systématique en fonction d'un ensemble de sujets qui auraient pu exister. Il n'y avait aucune base de données permettant de faire ce genre de choix. Mais au contraire, j'ai suivi l'actualité, téléphoné aux organisateurs ou aux responsables d'organisations qui prévoyaient de manifester le plus tôt possible, essayé de m'intégrer, d'être associé aux réunions.
Et parmi ces manifestations que vous avez pu observer en temps réel, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué, qui vous ont semblé le plus intéressantes pour votre travail ?
Alors, il y avait des manifestations de plusieurs types qui étaient très intéressantes. D'abord, il y avait les grandes manifestations. Et 99-2000 était une période, quand je suis arrivé, de grandes manifestations. Il y avait « Merci, mais partez ». Il y avait les manifestations contre le FMI et la Banque mondiale de l'an 2000. Il y a eu aussi des grandes manifestations pour défendre la télévision publique ou pour s'opposer à sa politisation. Mais j'étais aussi intéressé par les petites mobilisations Comment se fait-il que quelques anarchistes trouvent des motivations à manifester pendant plusieurs heures, entourés par de grandes forces de police et menacés par l'extrême droite? Comment comprendre une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de manifestants soutenant la mémoire des victimes en Tchétchénie devant l'ambassade russe, alors qu'il n'y avait pas toujours de répercussions dans les médias? Donc c'était un certain nombre de sujets qui m'intéressaient, qui me motivaient.
Donc pour votre travail, vous avez fait de l'observation participante des manifestations. Quelles étaient les autres sources que vous avez utilisées?
J'ai aussi eu accès à un certain nombre de rapports de police sur un certain nombre d'années, me permettant de voir du point de vue la police l'ensemble des manifestations. Et ça a pu permettre aussi de faire une étude exhaustive sur ces années-là de l'ensemble des manifestations répertoriées. Et j'ai aussi enfin procédé par entretien. J'ai essayé de parler avec la plupart des organisateurs, mais aussi des activistes ou personnes renommées liées à la protestation ou à la société civile.
Vous avez évoqué la France et en France, on sait que la tradition des manifestations de la contestation remonte à la Révolution française. Quelle est l'histoire de la manifestation et de la contestation dans les pays tchèques?
Alors c'est une très bonne question. En France, manifester, faire une pétition, protester est quelque chose de si commun que l'on peut se mettre à manifester sans avoir à préparer ça longuement, presque spontanément. Ça fait partie d'un répertoire d'actions commun, habituel. En République tchèque, ce n'était pas le cas en 89. Il s'agissait de quelque chose d'exceptionnel, et seul un certain nombre de dissidents étaient habitués à protester. Cette habitude s'est peu à peu élargie, soit sous leur influence, mais peut-être encore plus par l'arrivée d'habitudes, d'idées, d'identités, de pratiques venues de l'Occident. L'arrivée de Greenpeace, de mouvements de gauche altermondialistes ou d'autres mouvements encore, a changé les pratiques de la protestation.
Donc il y avait des traditions tchèques de contestation auparavant?
On peut dire que depuis 1968 et la période de la normalisation, la société tchèque s'était habituée à ne pas protester. Elle laissait l'État faire son travail d'État, elle ne se mêlait pas de la politique et en échange, l'État évitait d'utiliser la violence à l'encontre de cette population. Ce n'est pas avec facilité que les gens acceptent l'idée d'une protestation. L'idée de protester est liée à la peur de la violence qu'elle engendre, que ce soit une violence d'État ou une violence des protestataires, et cette idée est désagréable à beaucoup de Tchèques.
Une dernière question, Nicolas Maslowski. Qu'est-ce que l'étude des manifestations et des mouvements de contestation nous indique sur la société tchèque post-89?
Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur la société civile elle-même. Hein, la société civile qui est un sujet plus large que la protestation. Et il y a plusieurs conceptions de cette société civile. Il y a plusieurs types d'acteurs qui s'intègrent dans des familles d'idées, des mondes sociaux différents. D'abord, il y a le monde de la dissidence. De nos jours, ce ne sont pas toujours des anciens dissidents qui dirigent ces organisations. Néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui s'identifient, qui s'intègrent dans un ensemble de justifications, qui admirent ces anciens dissidents, et ils défendent un certain type, une certaine conception de la société civile. Et ce type de société civile et ce type de contestation est toujours très présente. Ensuite, il y a un grand absent, une autre conception de la société civile qui était qu'on pourrait appeler une conception nationale centraliste qui est défendue par le président Klaus actuellement. On peut y voir une certaine continuité avec les conceptions nationales centralistes que défendaient à une certaine époque les leaders du Parti communiste.
Qui est toujours présente et qui est reléguée par quel type de courant politique?
Donc il s'agit d'une conception qui est reléguée par différents types de partis politiques, et on les retrouve à droite comme à gauche, autant dans le Parti démocratique civique, qui était le parti de M. Klaus, que dans l'ancien Parti communiste, et une partie de la social-démocratie. Et il s'agit de conceptions de la société civile amenant à croire que l'expression légitime de la société ne devrait se faire que par des élections, que tout devrait s'organiser et se décider au niveau central et national.
Donc peu d'espace pour la manifestation de rue, pour la contestation spontanée d'acteurs de la société civile dans la rue.
Oui, et surtout peu d'espace pour la diversité des opinions et pour la multiplication des acteurs et des sources de légitimité. Et puis enfin, il y a un sujet important, c'est l'arrivée d'un autre type de protestation, d'une autre société civile, différente, qui ne comprend pas le monde de Havel ou même qui s'en distancie. Il s'agit de gens influencés par l'Europe occidentale, il s'agit des mouvements écologistes ou humanistes, influencés par Greenpeace ou par de nombreuses autres organisations internationales. Et ici, on y voit plutôt une influence de la globalisation, une influence de la mondialisation plutôt, que des sources nationales de ce type d'activité.
Nicolas Maslowski, je vous remercie. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions universitaires européennes un ouvrage intitulé « Manifester en République tchèque, société civile et protestation 1989-2009 ». Au revoir.
Au revoir.